France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'étoile brillait dans le ciel et regardait Marlon. Mais avant de devenir Marlon, le jeune garçon était Bud, petit blondinet, rondouillard et malheureux. Marlon Brando, bien sûr, sa férocité, son génie, son sens de la perfection. Acteur américain, selon Juliette Gréco, il ne semblait pas spécialement être américain. Il eût été un génie partout dans le monde entier avec son regard que certains trouvaient gênant. Avant d'être acteur, il avait songé faire des études pour entrer dans les ordres. C'est avec le tramway nommé Désir qu'il sentit qu'il voulait entrer dans cette carrière, s'imprégner de théâtre et de cinéma, fût-ce en critiquant le système qui ne lui pardonnerait jamais. Mardi du cinéma, par Jacques Munier, réalisation Claude Giovannetti, Marlon Brando, une étoile nommée Désir, première diffusion sur France Culture le 4 mars 1986.
Je me traînais depuis plus d'un kilomètre lorsque, enfin, parmi une centaine de ruelles, j'en aperçus une qui menait à un endroit familier, le quartier des magasins et des cinémas. C'est alors que je vis Brando. 20 mètres de haut, avec une tête aussi énorme que celle du plus grand Bouddha. Il était là, en couleur, sur un panneau publicitaire au-dessus d'un cinéma qui affichait « The Tea House of the August Moon ». Sa pose avait en effet quelque chose d'un Bouddha, car il était accroupi, un sourire serein sur un visage qui luisait sous la pluie et la lumière d'un réverbère. Une divinité, oui, mais bien davantage en fait. Rien qu'un jeune homme assis sur un tas de bonbons.
Marlon Brando. C'est un grand... un dieu pour les jeunes comédiens. Un génie. How do you say genius? Génie? Un génie. On ne voit pas son travail. On voit... un comédien sans travail. On croit. Et on est pris. Toujours.
Bon, si c'est un portrait psychologique, je dirais, bon, c'est le rebelle. Oui, c'est vrai. Une révolte sincère et profonde, et cette révolte étendue à quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose de mieux, qui pense qu'on peut toujours aller plus loin et qu'on peut toujours faire mieux. Et un rebelle aussi dans le sens, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les choses pour ce qu'elles sont et qui pose toujours la question pourquoi.
Un news item is money. And that news is hawked in the same way that shoes are, toothpaste or lipstick or...
Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il était déplaisant?
Oui, qu'il avait parfois des réactions tout à fait inattendues et des caprices.
Comme c'est fâcheux. Comme c'est fâcheux.
In the paper about Elizabeth Taylor or Richard Burton, everybody's
quiet. Quand je pense au visage de Marlon Brando, plus que les traits finalement, c'est l'expression. Quelque chose d'ironique, de narquois, d'un moqueur et en même temps de très doux, d'enfantin et de triste.
Si je devais en faire un portrait physique, je dirais que c'est l'impression de force, de puissance qui se dégage de lui. C'est l'impression de quelqu'un qui a une présence physique absolument étonnante et qui donne en même temps l'impression tout le temps d'être ailleurs. un peu comme dans le personnage de Sur les quais, un peu comme dans le personnage de Apocalypse Now, un peu comme dans le personnage du Dernier Tango à Paris. Quelqu'un qui, en face de vous, occupe tellement de place que vous ne voyez que lui, et qui est capable de vous regarder, de vous transpercer, de vous figer par l'intensité du regard, et qui d'un seul coup, la seconde d'après, n'est plus là.
C'était un jeune homme très beau qui venait juste de tourner L'Entre-Amour et le désir.
Marlon Brando, une étoile nommée Désir.
Look at yourself in this worn-out Monte Carlo outfit running for 50 cents of some rag picker. You know, I've been on to you from the start, and not once did you pull the wool over this
one. A streetcar named Desire.
L'épopée sauvage en trois actes, grandeur et décadence, résurrection. Marlon Brando parcourt les années-lumière depuis ce 3 avril 1924, où l'étoile apparut à Omaha, Nebraska, sous le signe du bélier. Mais jeu est un autre. La star tient sa substance et sa clarté de son double, réel mais obscur. Le jeune homme que nous raconte l'écrivain américain Truman Capote, devenu pour l'occasion journaliste sur le tournage de Sayonara, celui qu'évoquent ici Juliette Gréco, Kathleen Leslie, Edgar Morin et François Guérif, ce jeune homme dont la carrière débute sur les planches en 1944, à l'âge de 20 ans.
Ses débuts au théâtre se produisent avec I Remember Mama, une pièce de John Van Truten, qui remarque tout de suite le jeu naturel de Marlon Brando.
Oui, enfin c'est...
François Guérif.
Apparemment, d'après les témoignages et les critiques qui ont été publiées à l'époque, il est incontestable qu'au milieu de cette pièce, qui était une pièce assez pleurnicharde, d'ailleurs, dont Steven s'attirait un très beau film, d'ailleurs, dont le titre français était Tendresse, il jouait le fils de la famille, et apparemment, au milieu de tout ce classicisme et d'une façon de jouer extrêmement habituelle, l'apparition de Brando dans le rôle du fils, même si le rôle était court, produisait une espèce de décharge électrique comme quelque chose d'un petit peu différent.
C'était en 1947. Par un après-midi d'hiver à New York, lors d'une répétition à laquelle j'eus l'occasion d'assister, du Tramway nommé Désir, de Tennessee Williams, pièce dans laquelle Brando devait tenir le rôle de Stanley Kowalski. C'est ce rôle qui lui valut pour la première fois l'admiration générale, bien qu'il eût déjà attiré l'attention des spécialistes de théâtre new-yorkais par son travail d'étudiant avec le professeur d'art dramatique Stella Adler et quelques apparitions à Broadway, dont une dans une pièce de Maxwell Anderson, Truckline Café, et une dans le rôle de Marsh Banks face à Catherine Cornell dans celui de Candida, rôle dans lequel il avait fait preuve d'un talent qui avait suscité beaucoup d'éloges et de discussions. Elia Kazan, le metteur en scène d'Un tramway nommé Désir, avait dit à l'époque, et il a récemment répété, « Marlon est tout simplement le meilleur comédien au monde ».
Tout va débuter franchement avec Kazan.
Mr. Kazan. Thank you, John.
Merci, Jean.
Of course, I'm most sorry that Tennessee himself.
C'est vrai que je suis très triste que Tennessee ne peut pas être là lui-même, mais par bonheur, j'ai la chance de dire des choses sur lui que je n'ai pas le courage de dire devant lui. Peut-être, tu ne sais pas, que tous les metteurs en scène croient qu'ils sont du scénariste. Je n'étais pas une exception. Mais par bonheur, dans les différences que j'ai eues avec Tennessee dans la répétition, j'ai vu dans les expériments dans le premier public qu'il a eu beaucoup plus raison que moi pour mon confort. Et par j'ai compris que je ne connais pas beaucoup d'être scénariste, il a compris beaucoup d'être metteur en scène. Il y a quelques-uns.
Mais Kazan connaissait déjà Brando.
Kazan connaissait déjà Brando puisqu'il l'avait remarqué dans Trucklin Café. Enfin, tout vient par Kazan. Kazan remarque Brando juste au moment où les répétitions d'Un très bon homme et désir entrent en jeu. Bon, à ce moment-là, Kazan pense à Brando, mais Brando est un inconnu quand même vis-à-vis des producteurs de théâtre. Alors, qu'est-ce que fait Kazan? Il l'envoie à Tennessee Williams. Bon, Tennessee Williams, c'est le moment où il arrive en pleine gloire, puisque Un très bon homme et désir est une pièce qui aura d'ailleurs le prix Pulitzer de la meilleure pièce de théâtre de l'année. Et Brando va voir Tennessee Williams chez lui. Il arrive, ça c'est Tennessee Williams qui le raconte aussi, il arrive au moment où Tennessee Williams, je crois, a une panne d'électricité ou quelque chose comme ça, donc il est dans le noir, l'autre lui change ses ampoules. Et en fait, il sympathise, et Tennessee Williams va appuyer Kazan pour que ce soit Brando qui soit imposé dans le rôle. Et ce qu'a fait Brando surtout, il me semble, même c'est vrai si on lit la pièce attentivement, qu'il a donné au personnage un relief que le personnage lui-même n'avait pas tellement au départ. Et c'est pourquoi d'ailleurs par la suite, Tennessee Williams n'arrêtera pas d'écrire des pièces pour Brando, que Brando refusera de jouer d'ailleurs, parce que d'un seul coup il s'est rendu compte de toute la dimension physique, de la force que lui insuffle l'acteur, et qui est en effet, à mon avis, resté le meilleur acteur de Tennessee Williams.
Je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait être lorsque, arrivant en avance pour la répétition du tramway, je trouvai la salle déserte et sur scène un jeune homme d'aspect athlétique allongé sur une table sous l'éclat lugubre des projecteurs de travail, profondément endormi. Parce qu'il portait un t-shirt blanc et une salopette, à cause de son physique trapu de gymnaste, des bras d'haltérophile, une poitrine à la Charles Atlas, bien qu'un volume ouvert des œuvres choisies de Sigmund Freud y fût posé, je le pris pour un technicien du théâtre, c'est-à-dire jusqu'à ce que je regarde son visage de plus près. C'était comme si l'on avait pris la tête de quelqu'un d'autre pour l'attacher à ce corps musculeux, comme dans certains montages photographiques. Car ce visage était si délicat, surimposant un raffinement et une douceur presque angélique sur une beauté aux mâchoires dures. Peau fine, front haut et large, yeux bien écartés, nez aquilin, lèvres pleines dotées d'une expression détendue, sensuelle. Pas la moindre trace du très peu poétique Kowalski de la pièce. Ce fut donc un spectacle assez remarquable plus tard dans l'après-midi d'observer avec quelle facilité de caméléon Brando se para des couleurs cruelles et vulgaires du personnage, avec quelle superbe, telle une salamandre rusée, il se glissa dans le rôle, comment sa propre personnalité s'évapora. Exactement comme dans cet hôtel de Kyoto, 10 ans plus tard, mon souvenir du Brando de 1947 disparut, se fondant avec celui de 1957. Le duc dans son domaine, Truman Capote, 1957.
En fait, dans la pièce, le personnage de Kowalski symbolise une espèce de force brutale, assez bestiale, un premier degré, et le jeu de Brando apporte énormément parce que il donne à ce personnage qui est tout d'une pièce une espèce de dimension diabolique, une sensualité extraordinaire. Et c'est vrai qu'il influe du coup la pièce dans une direction beaucoup plus trouble et beaucoup plus riche parce que bon, c'est une pièce qui veut démystifier le vieux Sud, qui est une pièce contre le Sud. Tennessee Williams est originaire du Sud, il était homosexuel, il a souffert d'espèces d'ostracisme du côté arriéré du Sud et il se venge vraiment d'une façon extrêmement violente dans cette première pièce en faisant incarner le vieux Sud par cette femme alcoolique et vieillissante qui est le personnage de la pièce. Mais si ce vieux Sud était détruit originellement dans la pièce par un immigré polonais qui était en fait tout d'un bloc...
Stanley Kowalski, le personnage de Brando.
Voilà, incontestablement, quand on voit le film, Brando lui apporte une séduction absolument fabuleuse, une puissance, et rend d'autant plus d'ailleurs, j'allais dire, pitoyable la destruction de cette femme. Parce qu'il arrive un moment... où on comprend, je veux dire, la séduction de cette femme par cet homme, alors que je pense que dans la pièce initiale, il y a une espèce de, comme dans certaines pièces de Williams, une espèce de, comment dire, on aurait pu le critiquer en disant que le personnage se complaisait, être détruit par quelque chose de bas, de vil et tout, est-ce que là, il y a tout un enrichissement, il y a une ambiguïté, c'est le mot qu'il a, il arrive à donner à son personnage une ambiguïté fabuleuse qui n'était pas dans le texte initial.
Hello, Stout Tutti Frutti.
Oh, Stanley.
Hey, what's all this monkey doing?
Stan, I'm taking Blanche to Galatoire's for supper and then to a show because it's your poker night.
Hey, how about my supper? I'm not going to Galatoire's tonight.
I put your cold plate on ice.
Well, night is just dandy.
I'm going to try to keep Blanche out till your poker party breaks up because she's very sensitive and I don't know how she'd take it. Oh, you better give me some money.
Yeah, help yourself. Hey, where is she?
She's in the bathroom soaking in a hot tub to quiet her nerves. She is terribly upset.
Yeah, over what?
Well, she's been through such an ordeal.
Yeah, well, that singing doesn't sound like she was upset.
Well, she is. Stan, Blanche says we've lost Belle Reve.
Hey, what do you mean, a place in the country?
Mm-hmm.
Well, how?
Oh, it had to be sacrificed or something.
Yeah, well, let's have a gander at the bill of sale.
I haven't seen any.
What do you mean? She didn't show you no papers, no deed of sale, or nothing like that?
It seems like it wasn't sold.
Well, then what was it, then? Give away to charity?
She'll hear you.
Stanley Kowalski. J'ai pas eu la chance de voir au théâtre. J'étais trop jeune, mais parce qu'on a du cinéma, je peux voir son qu'est-ce qu'il a fait dans Tramway, dans Sur le quai. Et j'apprends toujours quelque chose de différent. Quand il a joué au théâtre, il a toujours cherché tous les nuits, après les répétitions, en train de jouer. Pour un an, tous les nuits, il a fait quelque chose de différent. Il a toujours été en train de travailler. Pour moi, c'est tellement important.
En parlant du jeu, justement, de Marlon Brando, un critique a parlé d'une science inégalée du paroxysme, mais du paroxysme contenu.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai, le paroxysme contenu. Il y a par exemple cette scène où il est en train de bouffer, on va dire, face à sa femme qui est mentor dans le film, où elle lui dit « tu manges comme un dégueulasse » et tout, et elle le traite de polac. Et il a cette façon de manger, c'est vrai, il y a une espèce de violence contenue, et d'un seul coup il explose en disant « I am not a polac », et il se lève et il fait simplement un geste. Mais toute l'attitude pendant cette scène où il fait quelque chose d'innocent qui est de baffrer, toute l'attitude, la violence est tellement contenue, en fait, que quand elle arrive, elle est libératoire à la fois pour le spectateur et bien sûr pour les personnages, mais on se rend compte à quel point il a réussi à faire passer sur une espèce de violence contenue qui ne cherche qu'à exploser sans qu'on s'en rende compte, même dans des gestes anodins. Il y a une force, c'est ça la puissance. Bon, il y a une puissance physique extraordinaire, une puissance émotionnelle dans le jeu qui est vraiment étonnante.
Alors, la formation, il a venu de le milieu de l'Amérique. Et le talent, c'est donné par le Dieu. Il a appris avec Stella Adler. C'était un des grands comédiens américains. Il était avec elle. Il était pris par Kazin pour le premier groupe pour l'Actor Studio. C'était quand Kazin a commencé l'Actor Studio. Et il a travaillé là. C'était après Tramway. Son travail en Tramway, c'est venu de lui. Parce que avec un comédien comme ça, tu laisses lui-même. Un metteur en scène comme Kazin a compris qu'on laisse ce talent libre. Et on trouve quelque chose. So, son formation, ça a venu, je crois, de Stella Adler et de son vie. Mais il était un homme très sensible. Et il n'était pas tellement au cours. Il était à le studio pour quelque temps et il a commencé des films. Kathleen Leslie. Oh, je suis un membre de le studio, je suis un comédien et un professeur de la technique que j'ai appris de Lee Strasberg et de Ilya Kazin et de l'Actor Studio ici en France à l'école Josephine Bay.
Was this before or after you got the telegram from Texas?
What telegram? No, after.
Yeah.
As a matter of fact,
yeah, there wasn't no wire at all.
No.
And there isn't no millionaire. And Mitch didn't come back with roses because I know where he is. There's not a darn thing but imagination and lies and conceit and tricks. And look at yourself. Look at yourself in this worn-out Mardi Gras outfit running for 50 cents to some rag picker.
Please.
You know, I've been on to you from the start, and not once did you pull the wool over this boy's eyes. You come in here and you sprinkle a place with powder and spray perfume. You stick a paper lantern over the light bulb. And lo and behold, the place has turned into Egypt, and you're the queen of the Nile, sitting on your throne, swilling down my liquor. And you know what I say? Ha, ha! Did you hear what I says? Ha, ha, ha! I'm going into the bathroom and get ready for bed.
À propos de ce rôle, c'est que le personnage justement de Stanley Kowalski était très éloigné de ce qu'il était lui-même du point de vue du caractère, qu'il était tout ce qu'il détestait, et malgré tout il a arrivé à en faire un rôle tout à fait convaincant.
Oui, et il dit aussi, ce qui me paraît très important, c'est qu'en fin de compte, avant le tramway, il n'était pas sûr, même encore aujourd'hui il n'est pas sûr, mais qu'il n'était pas sûr de vouloir être acteur, et que d'un seul coup, en rentrant tous les soirs de Broadway, après avoir joué cette pièce, d'un seul coup, il a entendu le grondement en lui et le grondement du public aussi, et il s'est rendu compte que c'était peut-être quelque chose qu'il pouvait faire. Et peut-être, je pense que chez lui, ça va être une forme d'exutoire aussi, d'extérioriser une certaine violence et de créer des personnages assez loin de sa propre personnalité.
Brando, il reste un dans nos têtes. Aussi sur le quai, aussi le parrain, tout ce qu'il fait.
En le regardant à présent, tel que, les yeux fermés, le visage blanc sous une lumière verticale, j'avais la sensation de revivre ma première rencontre avec lui. La voix continua comme si elle ne parlait que pour s'écouter. Impression que donnent souvent les discours de Brando. Vous savez, j'ai mis longtemps à me rendre compte de ce que j'étais devenu. Un grand succès. J'étais si absorbé en moi-même par mes problèmes que je ne regardais jamais autour de moi. Je ne réalisais pas. Je marchais dans les rues de New York tard dans la nuit, pendant des kilomètres et des kilomètres, sans jamais rien voir. Je n'ai jamais été convaincu que c'était bien comédien que je voulais être. Que c'est bien ça que je voulais faire. Je ne le suis toujours pas. Puis alors que cela faisait déjà plusieurs mois que je jouais dans le tramway, un soir, très faiblement, j'ai commencé à entendre le grondement. C'était comme si j'avais dormi et que je me réveillais assis sur un tas de bonbons.
Juliette Gréco, oui. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Marlon Brando ?
J'ai rencontré Marlon Brando il y a très très longtemps. Il était très jeune et moi aussi. Ça se passait d'abord à Saint-Germain-des-Prés comme ça, de vue. Et puis j'ai commencé à chanter fin 49, en été, au début de l'été 49, au Bœuf sur le Toit, c'est-à-dire sur la rive droite. C'est la première fois de ma vie que je chantais. Et il y avait surtout une très très jolie petite jeune fille qui chantait « Chérie, je vous aime beaucoup, je ne sais pas what to do ». Elle était noire et elle s'appelait Eartha Kitt. Et là, tous les soirs venait Marlon Brando. Puis de temps en temps, il m'a pris sur sa motocyclette et il marchait. Il avait de très jolis t-shirts blancs. Il a lancé une mode fatale. Qui s'arrêtait juste au-dessus de ses biceps sublimes. Et il avait une motocyclette noire, comme un beau coursier noir. Voilà. Et de temps en temps, il m'amenait ou il me ramenait sur son cheval de fer magique. C'était un jeune homme très beau, qui venait juste de tourner dans le tramway de mon désir. Il est toujours très beau d'ailleurs, mais il a une qualité de peau très très curieuse, enfin il avait à ce moment-là, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais il a une peau très 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 fine, extrêmement fine et lisse, un peu comme les Asiatiques, Et il a un regard extrêmement gênant. Moi, ça ne me gêne pas parce que j'aime bien le regard gênant. Mais je sais qu'il a gêné beaucoup de gens avec ce regard-là. Mais moi, j'ai toujours vu extrêmement joyeux. Enfin, extrêmement joyeux comme il peut l'être, c'est-à-dire qu'il n'est pas très expansif. Pas quelqu'un qui pousse des hurlements de rire. Il a une manière à lui de rire qui est complètement... Je ne sais pas si vous avez vu sa bouche quand il sourit, c'est une chose extraordinaire. C'est très beau à voir. C'est très beau, ça se déplie d'un côté, hein, et ça va très très rarement des deux côtés à la fois. On a toujours l'impression qu'il garde quelque chose à l'intérieur de lui. Toujours. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui mette tout sur la table, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui garde l'essentiel pour lui, je crois. Il faudrait demander ça à des gens qui ont vécu avec lui. Moi, je n'ai pas vécu avec lui. J'ai joué avec lui, mais je n'ai pas vécu avec lui.
Justement, à cette période où vous l'avez rencontré, lui, finalement, bon, il est américain, mais il est venu s'intégrer tout naturellement dans ce...
Il ne me semble pas très américain. Il ne me semble pas être un produit de l'Amérique. C'est un produit de lui-même. Il aurait été, lui, n'importe où dans le monde. Il existe en tant que génie... Il aurait été un génie n'importe où. Il y a peut-être un Chinois qui est comme ça. Que cette espèce de même... peut-être, d'ailleurs. Il fait penser plus dans sa manière d'être. Il est beaucoup, beaucoup plus extrême oriental qu'autre chose pour moi. Il est très mystérieux. C'est quelqu'un de très secret, finalement. Les choses qu'il jette à la face des gens ne sont pas les choses importantes, je crois pas. Sauf quand il est en colère... pour des raisons profondes, pour des raisons raciales, pour des choses comme ça. Mm-hmm. Sa manière de vivre lui ressemble totalement. Je pense qu'il est allé au bout de ses désirs, je le crois, je pense.
Le premier film, c'était The Men,
c'était
Les Hommes.
Fred Zinman, qu'on ne revoit pas souvent, qui était un film sur la rééducation physique d'un soldat au retour de la guerre, et qui est un film intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que c'est le premier rôle de Brando. Et puis, deuxièmement aussi, parce que c'est à travers ce premier film que Hollywood va découvrir le personnage et que le personnage ne changera jamais. Bon, la déclaration quand même à la presse en arrivant à Hollywood, c'est « Je suis ici car je n'ai pas eu le courage moral de refuser l'argent ».
Brando fit son premier voyage sur la côte ouest en 1949, lorsqu'il s'y rendit pour tenir le rôle principal dans « The Men », un film sur les anciens combattants paraplégiques. Il était, à l'époque... accusé de comportement social incorrect et critiqué pour son goût des blousons de cuir noir, des motocyclettes au lieu de jaguars et sa préférence pour d'obscurs secrétaires plutôt que des starlettes de cinéma. En outre, les journalistes hollywoodiens hérissaient leurs papiers de commentaires hostiles sur son attitude à l'égard de l'industrie cinématographique. Cependant, après The Men, qui bénéficia davantage d'un succès d'estime que d'un véritable triomphe commercial, Brando recréa Kowalski dans la version filmée du tramway nommé Désir, et ce rôle comme à Broadway le sacra vedette. Pratiquement, une vedette de cinéma est un acteur ou une actrice dont le seul nom suffit à remplir les salles et les caisses, indépendamment de la qualité du film dans lequel il joue. La race en est si rare qu'on ne compte à l'heure actuelle qu'à peine une dizaine d'acteurs qui aient droit à ce titre. Brando en fait partie.
Edgar Morin.
Pour qu'il y ait une star, dans le fond, il fallait que la personne de l'acteur se distingue tout en s'identifiant à ses rôles. Par exemple, quand vous aviez ces héros de bande dessinée, vous ne connaissiez que le nom du héros. Bon, ça, c'est Tarzan, par exemple. Bon, et peu importe, du reste, dans les films de Tarzan, que différents acteurs incarnent Tarzan. Mais pour qu'il y ait des grandes stars, il faut que la personne de la star soit reconnue comme telle, comme personnage réel, tout en étant mythologique, et qu'à ce moment-là, elle, elle apporte au personnage qu'elle incarne son charme, sa fascination, mais elle-même, elle est en retour divinisée par ses rôles. Alors, vous avez, ces personnes existent et elles apportent dans leur rôle quelque chose, et leur rôle leur donne à nouveau le quelque chose qui alimente leur mythe. Et puis, il y a eu un phénomène qui s'est passé, qui est lié chronologiquement à ce déclin du rôle éminent du cinéma, c'est que on ne pouvait plus consommer la même mythologie euphorique ou douceâtre de la Pienne. On ne peut plus vendre du bonheur comme une marchandise garantie. Je crois que le grand événement culturel qu'on a appris, c'est que non seulement la civilisation ne produit pas le bonheur, mais au contraire, elle produit des manques, des carences, des crises personnelles, morales. Et donc les stars, je crois, sont devenues des stars problématiques. C'est-à-dire, elles assument nos problèmes, en quelque sorte, solitude, vieillissement, mort, maladie, etc. Et ça, c'est très, très, je crois, frappant dans toutes les grandes stars d'aujourd'hui.
Est-ce que cette évolution n'a pas été annoncée par une star comme Marlon Brando, par exemple ?
Je crois, si vous voulez, qu'il y a eu un moment très, très important qui était d'abord marqué par l'apparition de Marlon Brando dans The Wild Ones, l'équipe est sauvage. Et aussitôt, presque après, par James Dean. Alors, James Dean, lui, son rôle est resté... Mais c'était deux héros problématiques, puisqu'ils posaient les problèmes de l'adolescence. Et ils posaient le problème, disons, de la révolte adolescence et de l'absence d'issue, dans le fond, d'une telle révolte. De la tragédie de l'adolescence, qui, dans le fond, était un âge qui s'imposait pour la première fois, disons, dans les arts de masse. Et d'une façon dure, parce qu'il refuse le statut d'enfance. Il ne veut pas entrer dans le monde des adultes, mais en même temps, il exige d'avoir une liberté, une responsabilité comme un adulte. Et il va se heurter à la vie, à la société. Et ça, alors donc, c'était bien marqué aussi par ce phénomène de bande. Et dans le fond, Marlon Brando, dans L'équipe est sauvage, c'est une bande de motards qui à la fois sont des durs, mais doux en profondeur, enfin lui son cas, et dans le fond il traduit ce problème de l'intégration ou de la non-intégration dans la vie. Et ce qui est extraordinaire dans toute la carrière de Marlon Brando, il est resté un personnage problématique. Et évidemment, et ça colle bien quand on interprète certains films, par exemple, surtout que le développement des films problématiques du type en Amérique, des films tirés d'après des pièces de Tennessee Williams. Alors lui, c'était le tramway nommé Désir, mais vous avez Newman qui a interprété 12 oiseaux de la jeunesse, etc. C'est toujours ça. Et Marlon Brando, dans le fond, il a beaucoup évolué, il a vieilli, mais je crois qu'il y a une unité à travers la diversité de ces incarnations qui, à mon avis, est très frappante.
...1953, L'équipée sauvage.
Que si les posters, la façon de marcher, de s'habiller de Brando est copiée, c'est surtout à travers le personnage de l'équipe est sauvage, bon, qui est un film qui a énormément vieilli aujourd'hui, je pense, qui, moi, me plaît bien à cause des acteurs, bon, qui sont Brando et Lee Marvin, d'ailleurs, qu'on oublie souvent, mais qui fait aussi un étonnant chef de bande. Autant là, en effet, aussi le jeu de Brando et le paroxysme contenu, puisque il est quasiment muet, il fait le blouson noir boudeur, il couvre pas souvent la bouche. Autant le personnage de Marvin est débraillé, braillard, expansif. Mais je pense à travers ce personnage que la jeunesse américaine va se reconnaître, parce que ce personnage, malgré les défauts du film, exprime une révolte à l'époque, bien avant la fureur de vivre, une révolte qui se trouve dans la jeunesse américaine. Et c'est là où le film, d'ailleurs, cloche et où Brando avait mis le doigt dessus, c'est que d'abord, il était trop âgé pour le rôle à ce moment-là, et que deuxièmement, là où Benedek a raté son coup, c'est que le film voulait traiter d'un certain désœuvrement d'une jeunesse, mais par exemple d'une jeunesse ouvrière, de choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le film? On voit arriver une bande de blousons noirs qui envahissent une ville, qui arrivent en moto, mais on ne sait jamais qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont... On ne comprend pas très bien les motivations, mais je trouve qu'on sait... vraiment trop attardé sur le folklore.
D'ailleurs, Marlon Brando sera déçu à la fin du film, lorsqu'il verra le résultat.
Oui, il est très déçu. Mm-hmm. Mais ça lui arrivera souvent.
Né à Omaha, Nebraska, où son père était représentant en pierre à chaux, Brando, troisième enfant et unique fils de la famille, alla bientôt vivre à Libertyville, dans l'Illinois. Là, les Brando s'installèrent dans une grande maison pleine de coins et de recoins, dans une banlieue rurale. Il y avait du moins suffisamment d'espace autour de la maison pour que les Brando puissent y élever des oies, des poules, des lapins, un cheval, un danois, 28 chats et une vache. Traire la vache était une tâche quotidienne réservée à Bud, comme Marlon était alors surnommé. Bud semble avoir été un enfant extraverti et compétitif. Quiconque venait à sa portée était immédiatement entraîné dans une quelconque compétition. Voyons qui mange le plus vite, qui retient le plus longtemps son souffle, qui raconte l'histoire la plus longue. Bud était également rebelle. Qu'il pleuve ou qu'il vente, tous les dimanches, il s'enfuyait de chez lui. Mais lui et ses deux sœurs, Frances et Jocelyn, étaient dévotement attachés à leur mère. Des années plus tard, Stella Adler, l'ancien professeur d'art dramatique de Marlon, décrivait Mrs. Brando, qui mourut en 1954, comme une créature très belle, délicieusement perdue et enfantine. Partout où elle avait vécu, Mrs. Brando avait joué un rôle prépondérant dans la création de troupes dramatiques locales, et elle avait toujours rêvé d'un monde plus imprégné de théâtre que ne lui offrait son entourage. Ses désirs inspirèrent ses enfants. Frances se mit à la peinture. Jocelyn, qui est à présent actrice professionnelle, s'intéressa au théâtre. Bud avait lui aussi hérité des goûts de sa mère pour le théâtre, mais à l'âge de 17 ans, il annonça le désir de faire des études pour entrer dans les ordres. Ayant été poussé à renoncer à ses ambitions cléricales, renvoyé de l'école, réformé en 1942 en raison d'un genou mal formé, Brando fit ses valises et partit pour New York, où Bud, le petit blondinet rondouillard et malheureux, disparaît pour faire place à Marlon, l'adulte au talent épanoui. Brando n'a pas oublié Bud. Lorsqu'il parle de l'enfant qu'il a été, cet enfant semble l'habiter, comme si le temps n'avait pas réussi à séparer l'homme de l'adolescent blessé dans ses aspirations.
En 1953, l'étoile commence à briller de son éclat propre, singulier et nouveau, et Brando veut l'avaler. Après avoir tourné l'année précédente Viva Zapata avec Elia Kazan, le blouson noir est demandé par Mankiewicz pour le rôle de Marc-Antoine dans la grande production hollywoodienne Jules César.
On disait que ce type parlait dans sa barbe, qu'on ne comprenait absolument pas ce qu'il disait, et que Mankiewicz, qu'il voulait pour le rôle de Marc-Antoine, il y a quand même une des plus belles tirades de Shakespeare, lui a fait enregistrer cette tirade sur disque et qu'il l'a fait entendre au producteur en demandant qui est-ce, et que les producteurs ont dit « Ah, c'est Laurence Olivier », disaient « Ah, c'est John Gielgud », »,« Ah, c'est James ». Donc, tout un certain nombre de grands acteurs shakespeariens ont été cités en écoutant la voix de Brando. Et alors, d'un seul coup, on a eu l'impression en plus que c'est quelqu'un qui pouvait se civiliser, puisque si jamais il pouvait jouer les classiques, c'est que c'était quand même un acteur digne de ce nom. Et d'autre part, pour les acteurs de langue américaine ou anglaise, anglo-saxonne, bon, Shakespeare est un défi... c'est le point de repère, c'est le maître étalon du théâtre. Si on peut jouer Shakespeare, on peut tout jouer. Et que là, bon, il a donné une performance dans le rôle de Marc-Antoine absolument étonnante.
I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often turned with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Oh, judgment, thou art led to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me.
Ce qui est bien, c'est que si on pouvait penser que un prince romano médicien ne pouvait jouer que ce genre de rôle et que c'était un peu lui-même, si on pouvait trouver que dans Iva Zapata, il transposait dans un personnage de révolutionnaire mexicain le personnage d'un tramway, car c'était aussi un personnage peu loquace, assez violent, etc., il est incontestable que là, c'est... Encore une fois, c'est un texte classique qu'il faut savoir dire. C'est un personnage complètement éloigné de la mythologie de Brando, de sa propre mythologie, et en plus, ce qui est aussi important, c'est que face à lui, il a des grands acteurs reconnus, avec qui il faut pouvoir rivaliser. Bon, il faut pouvoir rivaliser avec James Mason, il faut pouvoir rivaliser avec John Gielgud, il faut pouvoir rivaliser avec ces gens-là, et que non seulement il rivalise, mais il est bien peut-être le meilleur.
This was the noblest Roman of them all. All the conspirators, save only he, did that they did in envy of great Caesar. He only, in a general honest thought and common good to all, made one of them. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man.
Après ces quatre films, il va retrouver encore Elia Kazan avec un film qui sera très important pour lui. C'est le fameux Sur les quais.
Sur les quais, oui. Qui lui vaudra l'Oscar, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut rappeler aussi qu'il avait été proposé à l'Oscar pour Un très nommé désir, qui s'est fait battre sur le poteau par Humphrey Bogart dans African Queen, et qu'il était proposé aussi deuxième proposition à l'Oscar pour Jules César, où il s'est fait battre sur le poteau par... Carrie Cooper dans Le train sifflera trois fois. Bon, Sur les quais est un film, je crois, extrêmement important. C'est la fin d'une première période, d'abord. Bon, c'est vrai qu'après, il va rentrer un peu dans... Enfin, il va rentrer sans y rentrer dans le système des studios, des grosses productions et du star system. C'est le dernier film avec Kazan. C'est un film de crise pour lui, un moment précis dans sa vie privée où les choses vont mal. C'est aussi un film qui est tourné dans des conditions très difficiles.
Un film à petit budget.
Un film à petit budget. produit par S. P. Eagle, c'est-à-dire Sam Spiegel, qui est mort récemment, un film très critiqué, parce que pas mal de critiques ont reproché au film son côté symbolique à travers le personnage du prêtre incarné par Karl Malden. Enfin, c'est un film qui a eu énormément de conséquences, mais je pense, moi, pour ma part, que c'est peut-être le plus beau film de Brando en tant qu'acteur.
Pour raconter l'histoire, il s'agit d'une enquête sur l'infiltration par la mafia des milieux syndicalistes et en particulier du syndicat des dockers de New York.
C'est ça, c'est à travers le personnage d'un docker qui est ancien boxeur sonné, un docker un peu innocent, qui a un frère qui est le comptable du syndicat des dockers qui est tenu par un gang. En fait, bon, le film va raconter la révolte de ce... Et la police n'arrive pas à coincer ce gang parce qu'il y a la loi du silence sur les quais et tous les dockers refusent de témoigner contre leur syndicat, soit par peur, soit simplement par règle morale, parce que c'est comme ça, on règle les problèmes entre nous, on ne discute pas. Kazan, lui, en tous les cas, a toujours soutenu que, premièrement, ils avaient tourné ce film sur les lieux de l'action, que, deuxièmement, ils avaient été ennuyés pendant le tournage parce que les gens des syndicats voyaient d'un très mauvais œil le tournage de ce film. Donc, pour lui, ça a toujours été un film courageux. Troisièmement, que le personnage du prêtre, il n'y voyait rien de symbolique parce que ce prêtre existait et qu'il était là. Et que c'est un film qui lui tient particulièrement à cœur. Et je crois qu'il lui tient aussi particulièrement à cœur parce qu'il l'a dit, il l'a expliqué à différentes reprises. Il a toujours trouvé que le plus grand acteur avec lequel il ait jamais tourné, c'était Brando. Et il estime aussi que c'est le film dans lequel Brando est le plus génial. Et il cite à cet égard une scène d'improvisation qui est la fameuse scène où Brando se promène avec Eva Marissin et à un moment, accidentellement, elle laisse tomber un gant, ce qui n'était pas prévu. Tout le monde va pour s'arrêter de tourner quand Brando ramasse le gant. Et se met à ce moment-là à jouer avec le gant, et c'est-à-dire apporte justement à cette scène, qui selon Kazan a été écrite d'une certaine façon, peut-être un peu plus guindée, d'un seul coup une espèce de naturel arrive à improviser sur un texte écrit, mais pas vraiment improviser, mais dans les gestes, à lui donner tout de suite quelque chose de plus. Et Kazan explique bien, il dit que c'est le plus grand acteur avec lequel il a travaillé, parce que il dit, vous lui demandiez de vous donner ça, et vous en donnez toujours plus.
« Je vais vous dire, » reprit Brando, « Spencer Tracy est le genre d'acteur que j'aime regarder jouer. La façon dont il se retient, puis s'élance pour marquer son but, puis se retire. » Brando se mit à agiter ses doigts en l'air comme dans l'espoir que des gestes parviendraient à décrire ce qu'il ne pouvait énoncer avec précision. « Jouer est une chose si ténue, » dit-il, « une chose timide et fragile qu'un metteur en scène sensible peut tirer de vous. » Au cinéma, le moment important, sensible, arrive environ à la troisième prise de vue d'une séquence. À ce moment, on n'a besoin que d'un chuchotement du metteur en scène pour permettre de le cristalliser. Gadge, c'était le surnom d'Elia Kazan, sait le faire d'habitude. Il est merveilleux avec les comédiens. Un comédien aurait, je suppose, immédiatement compris ce que Brando voulait dire, mais je le trouvais difficile à suivre. « C'est ce qui se passe en vous, la troisième prise de vue, » dit-il avec une prudente emphase qui ne diminua pas mon incompréhension. L'une des scènes les plus mémorables que Brando ait tournées se trouve dans « Sur les quais » d'Elia Kazan. C'est celle qui se passe dans la voiture où Rod Steiger, le frère gangster, avoue à Brando qu'il le conduit vers un piège mortel. Je demandais à ce dernier s'il pouvait utiliser cet épisode comme exemple et me dire comment sa théorie du « moment sensible » s'y appliquait. Oui, enfin, non, bon, voyons. Il plissa les yeux et mit un bourdonnement. C'est une scène qu'on a tournée cette fois, et je n'aimais pas la façon dont elle était écrite. Ça allait mal, j'en avais marre de tout le film. Toute l'équipe était dans le New Jersey, et il faisait un froid de canard. Et j'avais des problèmes à l'époque, une histoire de fille. Cette scène, voyons, il y a eu 7 prises de vue. Mais je ne me souviens pas quand exactement, ni comment ça s'est cristallisé pour moi. La première fois que j'ai visionné Waterfront, dans une salle de projection avec Gadge, j'ai trouvé ça si mauvais que je suis sorti sans même lui dire un mot. Le Duc dans son domaine, Truman Capote, 1957.
Et je pense que Brando est complètement étonnant parce qu'il a un maquillage à la limite du vraisemblable. Il est maquillé, il a les yeux faits, j'ai jamais vu un docker comme ça. Et il crée un personnage qui se détache des autres, comme ça, de façon qui a l'air à moitié innocent. Il a un côté dostoïevskien, je trouve, dans le film. Il a un côté un peu de l'idiot. Il a une émotion. Alors là, justement, le paroxysme dont vous parliez dans Un travail nommé Désir, c'est un paroxysme de l'émotion tout le temps. Il y a une émotion, c'est quelqu'un de déchiré, de brisé, et on a tout le temps l'impression qu'on est au bord des larmes, et c'est ce qui rend la puissance de ce film. Et on peut citer à cet égard-là ce que dit Woody Allen, qui a toujours été un grand fan de Brando, qui dit que quand on joue sur les quais à la télévision à New York, il débranche son téléphone, il dit à tout le monde qu'il est absent de la ville, et il s'enferme devant son poste de télévision, et que là, pendant 2 heures, il en prend plein les yeux, vraiment, et que c'est un spectacle complet, total, comme jamais il en a vu.
C'est un film, d'ailleurs, qui aura un très vif succès, puisqu'il obtiendra 8 Oscars.
Oui, dont l'Oscar d'interprétation. Il obtiendra aussi le prix de la critique au Festival de Venise. Et c'est un film, oui, qui a lancé, et le producteur, Sam Spiegel, et confirmer le talent de Kazan et lancer définitivement Brando.
Le jeune homme qui vient de recevoir l'Oscar déclare à l'Assemblée « C'est beaucoup plus lourd que je ne le croyais. » Elia Kazan, dont ce sera le dernier film avec Brando, dira de lui « De tous les acteurs que j'ai rencontrés, Marlon est celui qui approchait le plus près du génie. L'étoile brillait dans le ciel et regardait Marlon. »
Je dirais que Sur les quais est l'aboutissement d'une période d'apprentissage. Ce qui est d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, une fois que Sur les quais est chargé de tellement d'émotions aussi, c'est la fin d'une crise, c'est comme la fin d'une période d'adolescence. Sur les quais est le film qui cristallise tout ce début de carrière, toute cette époque. Et après, bon, puisqu'il va être star, puisqu'il va être acteur, il va s'essayer à des choses. Et comme il s'appelle Marlon Brando et qu'il a envie en plus de s'amuser un peu de temps en temps, il va relever des défis, c'est-à-dire, alors, donc il va jouer Napoléon et il va le jouer en trouvant des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il parle l'anglais de façon impeccable au milieu de cette production hollywoodienne, ça donne l'impression justement que Napoléon est français, très bizarrement. Il va s'amuser dans Napoléon, par exemple, à créer des tas d'attitudes qu'on a prêtées à Napoléon dans des écrits, sans jamais reprendre la plus célèbre, évidemment. Enfin, des choses comme ça. Et bon, Blanche Cardin, mesdames, messieurs, c'est un défi. C'est un test dans la mythologie hollywoodienne. Presque tous les grands acteurs, un jour ou l'autre, font une comédie musicale. Et en plus, bon, là, c'est vrai que c'est un gros succès de Brando. Et puis, c'est quelque chose qu'il voulait faire.
They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. Your arm is date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush.
You might forget. Voilà qui vient pousser la chanson dans Blanche Colombe et Vina Messieurs, dans lequel d'ailleurs il a peut-être la meilleure chanson du film, qui est Luck Be a Lady Tonight.
Be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see. how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady tonight.
Alors ensuite, en 56 et en 57, on a donc deux films japonais, La Petite Maison de Thé et surtout Sayonara. Là, le Marlon Brando qui se révèle, ça commence à être celui qui s'oppose donc au modèle culturel américain et surtout à la façon dont ce modèle est imposé à des civilisations étrangères à la sienne, en particulier le Japon.
Ouais. Je dirais que celui qui se révèle, pour les producteurs, c'est l'emmerdeur. Donc,
le bousilleur.
Sayonara notamment, on dispose d'un document passionnant sur Sayonara qui est le fameux reportage de Truman Capote pendant le tournage du film, qui a écrit ce texte qui s'appelle Le Duc dans son domaine, où il fait un admirable portrait de Brando. Bon, il est incontestable, oui, que c'est avec ces films-là qui se révoltent contre une espèce de soupe hollywoodienne et en effet contre la façon qu'a Hollywood de montrer les civilisations différentes, qui se cristallisera plus tard, d'ailleurs, sur le problème indien. Et bon, c'est quelqu'un qui, par son goût de l'exotisme, parce que c'est quelqu'un qui a le goût de l'exotisme, en plus est très attaché au Japon, découvre un pays qui le fascine complètement et qui est absolument écœuré de la façon dont des gens comme Daniel Mann ou Joshua Logan travaillent.
Ce qui est tout à fait surprenant, c'est le rôle de Marlon Brando dans La Petite Maison de Thé, où il est complètement transformé, puisqu'il joue le rôle d'un Japonais.
Oui, il joue le rôle d'un Japonais qui tire la morale de l'histoire, qui s'oppose à l'Américain qui est joué par Glenn Ford. Ça fait partie, une fois encore, je crois, des défis dont on parlait, c'est-à-dire donc alors Napoléon, une comédie musicale, et puis jouer un Japonais. Je le trouve plutôt pas mal, mais enfin, ceci dit, ça fait aussi partie des défis qui ont oblitéré son image de marque, c'est-à-dire où les gens commençaient à se dire, bon, il fait n'importe quoi, ou du moins, il veut toujours aller plus loin, il veut prouver qu'il est l'homme caméléon, et puis ça rime à quoi? Bon, c'est un peu... C'est vrai que, a priori, pourquoi faire jouer le rôle d'un Japonais par Marlon Brando, sauf que c'est lui qui l'a exigé, qu'il l'a, que c'est bon. Et puis que dans le système hollywoodien, la présence d'une star plutôt que d'un Japonais amène des spectateurs.
En le regardant à présent, tel que, les yeux fermés, le visage blanc sous une lumière verticale, j'avais la sensation de revivre ma première rencontre avec lui. Et le Brando actuel, celui qui était affalé sur le tatami et qui aspirait paresseusement des cigarettes à bout filtre tout en monologuant à n'en plus finir, était bien entendu un être différent. Son corps était plus épais, son front plus haut car ses cheveux s'étaient clairsemés. Il était plus riche. Des producteurs de Sayonara, il pouvait espérer un salaire de 300 000 dollars, plus un pourcentage sur les bénéfices du film. Et il était devenu, comme l'a dit un journaliste, le Valentino de la génération Bop. Une telle célébrité mondiale que lorsqu'il sortait dans la rue au Japon, il jugeait bon de se cacher le visage non seulement derrière des lunettes noires, mais sous un voile de gaz. C'était là quelques-uns des changements qu'une dizaine d'années avaient opérés. Il y en avait d'autres. Ses yeux avaient changé, bien que leur couleur café expresso fût restée identique. La timidité, toute trace de l'ancienne vulnérabilité avait disparu. Maintenant, il regardait les gens avec assurance et avec une expression qu'on ne peut qualifier autrement que de pitié, comme s'il se mouvait dans des sphères de lumière où eux, à son grand regret, ne pouvaient le suivre. Toutefois, la subtile tendresse de son visage avait été préservée, ou presque. Car entre-temps, il avait eu un accident qui lui avait conféré un aspect plus conventionnellement masculin. Il s'était tout simplement cassé le nez. Et
M'arrangeant pour glisser un mot dans la conversation, je demandais « Comment vous êtes-vous cassé le nez ?»« Je ne veux pas dire que je suis toujours malheureux. Je me souviens d'un avril en Sicile. Une journée chaude et des fleurs partout. J'aime les fleurs. Celles qui sont parfumées. Les gardénias. Bref, c'était en avril et j'étais en Sicile. Et je suis sorti tout seul. Je me suis couché dans un champ de fleurs et je me suis endormi. Ça m'a rendu heureux. J'étais heureux à ce moment-là. » Quoi ? Vous disiez quelque chose ?
À propos de La Vengeance aux deux visages de 1961, dont la version initiale dure 4h30 et qui sera tronquée et ramenée à 2h20 par la Paramount, Bertrand Tavernier écrira « De tous les films d'acteurs venus d'Hollywood, La Vengeance aux deux visages est peut-être avec La Nuit du Chasseur de l'automne le plus original et le plus personnel. » Mais après Le Bal des Maudits et L'Homme à la peau de serpent, film de Sidney Lumet d'après une pièce de Tennessee Williams, ce film va exacerber les conflits avec Hollywood et annoncer la chute prochaine de Marlon Brando dans Les Révoltés du Bounty en 62. Le jeune homme avait mangé l'étoile et le star system ne lui pardonne pas.
Bon, c'est sûr que à propos de Bousilleur, il en a sûrement été un pendant le tournage du Bounty. Je veux dire, 3 ou 4 metteurs en scène y ont quand même laisser leur santé. Carol Reed, qui avait commencé, est partie. Lewis Milestone, ça l'a tué. Milestone a abandonné. Quoiqu'il ait été très professionnel, il n'a jamais chargé Brando. On dit que la fin aurait été tournée par George Seaton. Il y a eu je ne sais combien de scénaristes, à cause en partie de Brando, qui voulait tout le temps qu'on réécrive son personnage. Bon, ceci dit, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la construction de cet énorme bateau qui était le Bounty, et le fait de le faire aller à Tahiti et que le bateau était mal construit, que les gens qui ont amené le bateau ont dégueulé pendant tout le voyage, sont arrivés malades comme je ne sais pas quoi, qu'ils ont essuyé des tempêtes. Il y a le phénomène de Tahiti qui s'est révélé dans plein de films qui ont été tournés à Tahiti, où les gens trouvent que c'est tellement la douceur de vivre qu'ils veulent plus rentrer chez eux. Donc il y a eu tout ça. Et c'est vrai que là, on se rend compte de toute la haine accumulée finalement par le système hollywoodien contre le personnage. C'est que d'un seul coup, il fait un bouc émissaire pour tout ça, et c'est lui. C'est-à-dire, tout est de sa faute. Et c'est assez drôle, parce qu'à l'époque, il y a quelqu'un d'autre qui est comme ça, enfin, ou qui va être comme ça, c'est Elizabeth Taylor sur Cléopâtre. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'est... Et ça marque, à mon avis, ce qui est important, plus que ce côté bouc émissaire, ça marque aussi, d'une certaine façon, la fin du star system à Hollywood. Et c'est vrai que c'est dans les années qui suivent qu'on va voir apparaître des gens comme Dustin Hoffman, comme enfin des gens moins connus, des petites productions, des choses comme ça. Ça marque la fin d'un star system trop puissant.
En 66, il tourne avec Arthur Penn un film qui est assez intéressant, justement, du point de vue de sa personnalité et de la violence qui peut s'y exprimer. À tel point, d'ailleurs, qu'une scène de bagarre sera supprimée par les monteurs parce qu'ils la considèrent insoutenable. Et pour lui, c'est un rôle nouveau, dans la mesure où, pour la première fois, c'est le rôle d'un personnage presque tout à fait positif, et qui n'est pas continuellement en proie au doute, comme c'est le cas dans la plupart de ses rôles jusqu'alors.
Oui, c'est La Poursuite impitoyable, The Chase. Je crois que ce qui est surtout intéressant dans ce film, c'est la rencontre entre Arthur Penn et Brando. Bon, Arthur Penn, qu'on peut qualifier de héritier de Kazan, bon, qui vient lui aussi du théâtre, de New York, qui avait fait son premier film avec Paul Newman, dont le jeu était alors terriblement influencé par l'acteur studio, qui a la réputation d'être un intellectuel. C'est la rencontre entre ce jeune metteur en scène et cet homme. Moi, je trouve que The Chase est un chef-d'œuvre, quasiment. Film totalement méconnu. C'est vrai que là, on est dans la période des droits civiques en Amérique et tout, et que c'est probablement aussi par conviction politique qu'il a, à part la rencontre avec Arthur Penn, qu'il a accepté le rôle. Il le symbolise d'une certaine façon, n'ayant pas peur des mots, la démocratie américaine. Bon, au milieu d'un tas de pressions, de corruption, de violence, qui reste droite, déterminée. Et alors bon, là aussi, ce qui est extraordinaire, souvent, c'est la puissance physique du personnage. Toujours est-il que, est-ce à cause de lui, de sa présence, le film a été un échec critique et commercial flagrant. C'est en tous les cas un des meilleurs films d'Arthur Penn, et c'est un des plus beaux rôles de Brando, je trouve. C'est en tout cas le plus beau rôle de cette époque.
Dans Reflet dans un œil d'or, qui est un film de 67, il va tourner donc avec John Huston. Et le rôle qu'il va jouer, qui est le rôle d'un officier américain à demi impuissant, tourmenté par des velléités homosexuelles tout à fait larvées, et là aussi tout à fait remarquable.
Oui. Bah là aussi, moi j'ai eu la chance d'interviewer John Huston il y a 2 ans à Cannes. Je lui ai demandé, je lui ai dit, il paraît que Brando avait la réputation d'être un acteur difficile. Il m'a dit « nonsense ». Et Arthur Penn dit pareil. Bon, en fait, c'est-à-dire, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui met les gens au défi. Ça, bon, on n'en a pas parlé de ça, mais en disant, par exemple, sur un plateau, c'est paraît-il ce qu'il avait fait pour Sayonara. Il avait un moment, il y avait une scène où il avait décidé de la jouer de façon complètement aberrante. Et Joshua Logan avait dit « Oui, formidable, génial ». À partir de là, mépris total pour Logan, jusqu'à la fin du tournage. C'est ce qui arrivera avec Canfield sur la nuit du lendemain, c'est ce qui arrivera avec plusieurs personnes. Bon, là, c'est évident qu'il y a Huston, Taylor, qui est une amie de Brando depuis très longtemps. Il y a le film, paraît-il, le tournage a été du billard. Et il y a un retour, justement, là, à une performance, c'est vrai, plus feutrée, je veux dire, beaucoup plus intériorisée, une façon très, très étonnante de se présenter physiquement, enfin, dans ce film, il y a un côté, je sais pas, presque maladif, inquiet, quand à la fin il est en robe de chambre, qui se repeigne en voyant le jeune homme escalader la fenêtre, des choses comme ça. C'est un officier tourmenté, mais c'est un officier vieilli physiquement, laid, et complètement complexé, impuissant. C'est vrai que c'est l'anti-Brando du début. C'est vraiment l'anti-Kowalski. Et là, c'est le contraire de ce qu'il avait été. Je veux dire, c'est le contraire d'un symbole sexuel.
En 1966, Brando acquiert une île au nord-est de Papeete, loin d'Hollywood. Il va tourner des films en Europe, des réalisations plus ou moins heureuses, parmi lesquelles il faut néanmoins citer Quemada de Gillo Pontecorvo, film de 1970, ou encore Le Corrupteur de Michael Wiener, qui préfigure par bien des aspects le dernier tango. Sa réputation est au plus bas, on le donne pour un acteur fini. Marlon Brando va alors tirer un parti magistral de son vieillissement dans Le Parrain et faire un retour triomphal à Hollywood. Car l'étoile s'était remise à briller d'un éclat soudain ironique et vengeur.
Il faut quand même quand même rappeler qu'il a passé un bout d'essai pour décrocher le rôle du parrain. Bon, à tel point la réputation qu'il avait était mauvaise, c'est que les producteurs ne voulaient pas entendre parler de Brando et que s'il a passé un bout d'essai, c'est pas vraiment un bout d'essai dans le sens où on l'entendait, puisque c'est Coppola qui est venu chez lui, qu'il s'est déguisé, qu'il s'est mis les plures d'orange dans la bouche et qu'il a joué le vieillard et que Coppola, projetant ça au producteur, a fini par les convaincre. Mais sinon, il n'en était vraiment pas question. Bon, et là aussi, je pense que ce qui est important, c'est la rencontre avec Coppola, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand il rencontre un jeune metteur en scène qui est préoccupé par les choses qui le préoccupent, ça donne des résultats très étonnants. Et ce qui l'intéresse dans Le Parrain, c'est que, comme il dit, la mafia est une vaste métaphore, c'est une métaphore de l'Amérique elle-même. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que c'est qu'une société anonyme industrielle? C'est une société qui veut des bénéfices, qui fonctionne d'une certaine façon, et la mafia fonctionne absolument de la même façon. La première phrase du film, Le Parrain, c'est quand même « I believe in America », dit la personne qui vient se confesser au parrain. Et là, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'il joue un vieillard et que on se rend compte combien ce côté terriblement physique qu'il y avait chez Kowalski était quelque chose qui le préoccupait. Ça. Et en fait, que c'est quelqu'un qui a tout le temps énormément joué avec son corps, sa voix, c'est-à-dire son corps entier, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Car ce qui est passionnant dans Le Parrain, je trouve, c'est cette façon dont il bouge, j'allais dire, ou dont il ne bouge pas, c'est-à-dire quand il joue avec son petit-fils, quand il va faire ses courses, et quand il se lève de son fauteuil, c'est-à-dire toute espèce de geste complètement décomposé, comme au ralenti, il y a une imitation d'un vieillard. Alors, ce qui est très marrant, c'est que les mauvaises langues disaient, certaines mauvaises langues disaient, il a pris un coup de vieux, c'est parce qu'il est comme ça, et paf, 6 mois après, sans Le Dernier Tango à Paris, évidemment, où la prestation physique est complètement à l'opposé de celle-là. Et c'est aussi, alors Le Parrain, un retour des choses et aussi une revanche. Bon, une revanche parce que c'est l'Oscar qui l'envoie à la figure du système. C'est aussi le fait qu'il redevient l'acteur le plus payé d'Hollywood et qu'il va le faire payer très cher par la suite.
Marlon Brando recevant l'Oscar du meilleur acteur 72 pour son interprétation du parrain et le refusant, ce fut un beau chahut dans la salle. Il le refusait et c'est une jeune fille indienne qui s'appelle Shoshen Little Feather que Brando avait envoyée avec un discours un peu trop long à lire et qui venait chercher, elle, l'Oscar, geste de mauvaise volonté de Marlon Brando, refusant l'Oscar 72 en raison de la politique américaine vis-à-vis des Indiens. Oui, il y eut des applaudissements et beaucoup de sifflets. Toujours est-il que, quand même, malgré tout, Marlon Brando est consacré meilleur acteur 1972.
Oui, et Le Parrain obtient l'Oscar du meilleur film 72. Le Parrain, 3 heures de projection. Un Marlon Brando grimé, vieilli, usant de sa voix voilée comme d'un instrument bien docile, il remporte l'Oscar du meilleur acteur. Il est vrai que sa mort au ralenti dans son jardin parmi ses fleurs et ses plants de tomates était à elle seule un morceau de bravoure du cinéma.
Vous parliez du dernier tango, le film de Bertolucci. Là aussi, justement, et à la suite du Parrain, la performance est...
Ah ben, la performance est absolument éblouissante. Je pense sincèrement, et alors là-dessus, on peut citer Bertolucci lui-même, que le dernier tango est un film de Bertolucci et de Marlon Brando. Bon, rappelons que le film a été écrit pour Jean-Louis Trintignant et Dominique Sandin. Et que Bertolucci lui-même dit que l'acteur y a tellement apporté de choses que ça a complètement modifié l'optique générale du film. Enfin, et je trouve en plus qu'on peut la pressentir, l'optique du film, à travers le personnage de Jean-Pierre Léo, qui était l'autre personnage...
Le jeune cinéaste,
la Nouvelle Vague. Et dont, bon, or, Bertolucci était quand même plus proche de la Nouvelle Vague que du cinéma hollywoodien. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant dans Le Dernier Tango, c'est que c'est la rencontre de deux mythologies. Et qu'il y en a une, incontestablement, qui est d'une énorme puissance et l'autre qui ne fait pas le poids. La récente programmation à la télévision, je trouve, le prouve. C'est que aujourd'hui, le film, dès que le personnage de Brando quitte l'écran, le film retombe de quelques crans. Bon, c'est un film très beau, plastiquement, intéressant. Mais, enfin, moi, pour moi, en tout cas, je suis obsédé par Brando, mais je crois pas. C'est-à-dire qu'il donne aussi à son personnage une telle dimension. Et alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est presque une psychanalyse pour lui, ce film. Il a reproché à Bertolucci ensuite d'avoir accentué les côtés un peu sexuels pour faire vendre le film, ce qui est peut-être vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Mais il y a des scènes dans le film qui sont improvisées, dans lesquelles Brando a raconté une partie de sa vie. La fameuse scène où il parle de sa jeunesse, et ça Bertolucci aussi le confirme, en parlant de sa mère qui était ivre dans le Nebraska, de son père qui était violent, c'est la jeunesse de Brando. Donc c'est vraiment un film dans lequel il s'est totalement investi, et c'est un film qui prouve, alors à l'époque, à 50 ans, il est dans une... J'allais dire une forme physique, une force de caractère absolument éblouissant. Je dirais que c'est une psychanalyse, j'ai l'impression, le film pour lui.
Why don't you go back in America?
Ma mère était tout pour moi, tout un monde. J'ai essayé de mon mieux, je rentrais de l'école. Il hésita comme pour me laisser le temps de l'imaginer. Bud, des livres sous le bras, cheminant par un après-midi. Il n'y avait personne à la maison. Rien dans le réfrigérateur. D'autres tableaux défilent, des pièces vides, une cuisine... Puis le téléphone se mettait à sonner. Quelqu'un qui appelait d'un bar. Et le type disait « Il y a une dame ici.
Vous feriez mieux de venir la chercher. Soudain, Brando se tut. Dans le silence, l'image s'évanouit, ou plutôt elle se figea. Bud au téléphone. Enfin, l'image se remit en mouvement, sauta dans le temps. Bud a 18 ans. Et je me disais que si elle m'aimait assez, si elle avait suffisamment confiance en moi, je pensais... Eh bien, que nous pourrions vivre ensemble, à New York. Nous serions ensemble et je prendrais soin d'elle. Un jour plus tard, cet espoir s'est réalisé. Elle a quitté mon père et elle est venue vivre avec moi, à New York, alors que je jouais dans une pièce. J'ai tellement essayé, mais mon amour ne suffisait pas. Elle ne s'en contentait pas. Elle est repartie. Et un jour... La froideur de sa voix s'accentua, tandis que le degré émotionnel s'élevait jusqu'à ce qu'on distingue quelque chose comme un son, dans un son, un étonnement blessé. Brusquement, je ne me suis plus senti concerné. Elle était là, dans une chambre, s'accrochant à moi, et je l'ai laissé tomber, parce que je ne pouvais plus le supporter de la regarder tomber en miettes devant mes yeux comme une pièce de porcelaine. Je lui ai marché dessus. Je suis sorti sans me retourner. J'étais devenu indifférent. Depuis, je suis indifférent.
C'est Norman Mailer qui écrivait un jour que les acteurs ne faisaient jamais justement l'effort ultime pour se révéler eux-mêmes, pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et je trouve que dans ce film, cet effort ultime, Brando du moins, il l'a essayé ou il l'a probablement fait. Et ce que je trouve formidable, justement, ça, c'est qu'il le fait, mais sans, je veux dire, avec une rigueur tout à fait étonnante, là, aidé par Bertolucci.
Beaucoup de critiques ont dit que Marlon Brando, dans ce film, a été comme ressuscité. Moi, j'arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire en général, c'est-à-dire, je l'ai intrigué avec une méthode de travail qui était complètement neuve pour lui. Il vient de l'école de Stanislavski, c'est-à-dire... une école très importante.
Enfin, en passant par l'Actor Studio. C'est-à-dire, c'est Stanislavski plus la psychanalyse.
Où on disait aux jeunes étudiants acteurs, maintenant vous devez rentrer dans le personnage, maintenant vous êtes un arbre, alors il se mettait, il faisait l'arbre, etc. J'ai fait exactement le contraire. C'est-à-dire, j'ai voulu que, jour après jour, à partir du début du tournage, le personnage écrit a priori par un scénariste qui par hasard c'était moi, mais donc extrêmement théorique et a priori, venait complètement effacé par le matériel humain que les acteurs même me portaient. Donc je suis allé même contre le scénario, même contre ce que j'avais écrit, en tournant le film. Parce que moi je crois que le cinéma, le film, naît dans le moment où il y a le rapport entre la caméra et les réalités qui est en face de la caméra et qui est aussi derrière la caméra. Donc les acteurs ont dû forcément partager, et Brando s'est donné avec tant de générosité justement parce qu'il était fasciné. Quand même à la fin, il m'a dit, je rappelle très bien, le dernier jour, je ne sais pas si je ne ferai jamais plus un film comme ça parce que j'ai eu un sens de violation tout le temps de mes fantômes les plus intimes, les plus obscurs.
épaisse. Alors là, en effet, aussi de rage contenue dans tout le film, d'émotion contenue, de tristesse contenue, de révolte contenue, avec cette explosion finale. Quasiment sûr que la scène du tango où à la fin quand il s'en va et qu'il baisse son pantalon, c'est improvisé par lui. C'est-à-dire qu'il y a dans le film des tas d'attitudes, des tas de déclarations, des tas de souvenirs qui sont le personnage Brando. Et moi je dis que le dernier tango à Paris, c'est un film sur Marlon Brando.
La séduction était une chose tout à fait exceptionnelle, je crois.
Oui.
J'ai jamais vu personne séduire de cette façon-là. Mmh. Quand même très, très curieux. Il est né comme ça. Je pense que la seule chose qui l'a sauvé de cette beauté, c'est son intelligence.
Juliette Gréco.
C'est sa férocité, c'est son génie et c'est cette recherche de la perfection. Allons, voyons. Les chiens féroces. Qui mesure 50 cm.
Et quel est le film que vous avez préféré? Là où vous l'avez trouvé le plus proche de ce que vous pensez être là?
Je ne sais pas. Je le trouve ni meilleur ni moins bien. Je trouve qu'il est lui, une certaine manière d'être lui dans tout ce qu'il fait. Je crois que c'est un acteur de composition. Totalement. Je crois que c'est quelqu'un qui a toujours joué à être quelqu'un d'autre chaque fois qu'il a fait un film, je crois. Je pense pas du tout qu'il ait donné le meilleur de lui-même. Je crois qu'il a donné le meilleur de ce qu'il pensait être le personnage. Il n'y a que lui qui puisse savoir qui il est. Et s'il réussit à nous expliquer qui il est à l'intérieur d'une œuvre dont il sera totalement responsable, ce sera très bien.
Mais d'après vous, cette œuvre n'est pas achevée?
Pas du tout, du tout. Je pense pas, j'y crois pas un instant. C'est comme si vous me disiez que Orson Welles avait pris sa retraite. Jamais. Jamais, ce sont des gens qui auront toujours quelque chose à dire parce que ce sont des gens qui sont fragiles. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire d'une extrême pudeur. Ce sont ces êtres-là les plus offerts parfois. Qui offre une image d'eux-mêmes, parfois assez dégradante, qui sont les gens les plus fragiles et à l'intérieur de cette image dégradante qui ne donne rien du tout d'eux-mêmes. Une sorte de jeu, une sorte de jeu diabolique. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je crois qu'il était encore. Il a été adolescent très très longtemps, en vérité. C'est quelqu'un d'extrêmement jeune, d'extrêmement frais. C'est pas du tout quelqu'un de fané, de desséché. Je crois qu'il a encore beaucoup à dire, beaucoup, beaucoup. Je crois. En tout cas, je l'espère. C'est peut-être ce qui me fait dire ça, mais je le crois. Je crois. De même que j'ai toujours cru qu'Orson Welles avait des choses à dire. Je prends Orson Welles parce que ce sont deux Américains qui ne ressemblent en rien à des Américains. Ou qui sont le meilleur de l'Amérique.
Marlon Brando, une étoile nommée Désir. Par Jacques Munier. Avec Juliette Gréco, François Guérif, Kathleen Leslie et Edgar Morin. Le duc dans son domaine de Truman Capote, lu par Jean-Louis Jacopin. Groupe de réalisation, Daniel Bizien, Emmanuel Colchet, Claude Giovanetti. Document, Alain Lacombe et Alina Yves Builly.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 mars 1986.